Chers amis, réduisant le très classique quart d'heure bordelais ou universitaire à 7 minutes, je vais donc commencer, prendre la parole pour quelques instants, n'étant pas le principal artisan de cet ouvrage. Je vous remercie d'être venu malgré le froid et je salue les Bordelais et ceux qui ne le sont pas, puisque nous avons un certain nombre d'amis qui sont venus de beaucoup plus loin. Alors ce livre que vous avez pu entrevoir et qui est là-bas sur la table est le produit d'une rencontre qui s'inscrit dans les logiques de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, qui est la maison, comme son directeur nous l'a bien souvent répété, de l'interdisciplinarité. Lui, il trouvait, il avait plusieurs « i », la maison était pour lui la maison de quantité de qualificatifs, commençant par « i ». Mais nous, nous insistons sur l'interdisciplinarité. Et ce livre traduit une découverte réciproque de ces différents auteurs, mais ne prétend pas être le résultat d'une longue réflexion commune. En effet, quand nous nous sommes rencontrés à l'initiative de M. Brissou, nous ne nous connaissions pas et nous savions à peine ce qu'étaient les disciplines des uns et des autres. Si M. Brisson savait parfaitement ce qu'était l'histoire et la géographie, mais les historiens et les géographes présents étaient beaucoup plus hésitants sur les sciences qui sont du domaine de M. Brisson. Donc nous nous sommes rencontrés, nous avons fait connaissance et ça a été une rencontre extrêmement fructueuse parce que du même coup, nous avons appris beaucoup de choses, ce qui n'est pas toujours le cas dans les rencontres universitaires. Le résultat, c'est évidemment la diversité du propos, mais cette diversité, vous le constaterez en le lisant, en lisant le livre, est heureusement dominée par l'apport des maîtres et des étudiants en psychologie. Et l'une des choses qui nous a beaucoup frappé, nous qui venions de l'extérieur, c'était cette capacité des maîtres et des étudiants en psychologie de travailler ensemble et de dialoguer. Les étudiants sont des élèves de M. Jean Brisson, qui a été le maître d'œuvre de cette journée, mais qui a bien voulu faire place à d'autres apports de sociologues et même d'historiens et de géographes. De sociologues, c'était tout à fait logique, d'historiens et de géographes, leurs propos étaient évidemment un petit peu éloignés des disciplines dominantes. Un propos qui, vu le thème du livre, ne porte évidemment pas à l'euphorie, mais qui nous concerne tous. Le constat fondamental de l'universalité du vieillissement n'est peut-être pas rassurant, mais permet quand même à tout un chacun de relativiser ses angoisses en les banalisant. Positif aussi est le constat que le vieillissement suscite attention et prise en charge multiple par le jeu de solidarité, comme nous dit-on, là j'ai pas fait de doute, comme nous dit-on en Afrique ou au Vietnam, ou solidarité, ou recours à des spécialistes rétribués, mais qui ne sont pas pour autant nécessairement moins généreux que les acteurs traditionnels est sans aucun doute plus efficace. Et c'est sur un point sur lequel je me plais à insister. En général, lorsque l'on parle de professionnalisation, on dit que dans la mesure où il y a professionnalisation, la générosité s'en va, le dévouement s'en va. Je crois que c'est totalement faux et qu'on peut très bien considérer qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont parfaitement dévoués, tout aussi dévoués que les amateurs des périodes précédentes, des périodes antérieures. Incontestablement sérieux, le propos n'en est pas moins à l'occasion égayé par l'anecdote, comme celle qui évoque le très durablement vert maréchal de Richelieu, qui a été, vous le savez, gouverneur de l'Aquitaine, grand personnage bordelais, constructeur notamment du Grand Théâtre, car jusqu'à un âge très avancé, il avait un goût très sûr pour les petites danseuses. Proposé par les auteurs, il a eu d'autres mérites, le maréchal de Richelieu. Enfin, c'est quand même pas le cardinal, hein, c'est pas. Il est surtout connu par son art de vivre et par la joie qu'il a mis à vivre jusqu'à un âge très avancé. Proposé par les auteurs formés à des disciplines très diverses, qui généralement s'ignorent, ce livre apporte dans son hétérogénéité des réponses à des curiosités si multiples qu'il n'est pas possible d'en tirer des conclusions communes. Mais l'historien que je suis se permet néanmoins d'avancer l'hypothèse que le vieux d'aujourd'hui, que l'on n'ose plus par décence appeler ainsi, est mieux protégé, mieux traité que ne l'était celui des siècles passés, quelles que soient les vertus que l'on attribue aux solidarités de jadis ou d'ailleurs. Je passe maintenant la parole à M. Buisson. Ah non, pardon. Ah non, je passe maintenant la parole à Caroline Vion, qui s'est beaucoup investie dans cette recherche et dans la réalisation de cet ouvrage.
Donc, un certain nombre de doctorants issus des deux écoles doctorales a répondu présent pour faire une communication sur un sujet tout à fait original qui touche à la vieillesse. Ce colloque a permis aux doctorants des deux écoles de confronter leurs méthodes de travail et leurs points de vue. Et pour ma part, j'étais loin d'imaginer à quoi une simple communication dans ce colloque allait m'amener. Tout a commencé de façon étrange et un peu par hasard, puisque à l'origine, M. Guillaume, qui me connaissait puisque je travaillais à la Fédération historique du Sud-Ouest, m'a proposé de faire une communication. Mais ne trouvant aucun intérêt pertinent en rapport avec ma thèse, puisque je fais une thèse sur la dynastie notariale bordelaise des Barberets au XVIIIe siècle, et je n'ai pas trouvé quoi dire spécifiquement sur la vieillesse à travers les fonds notariés, et donc j'ai choisi de présenter les personnes âgées au Vietnam d'aujourd'hui. Car j'ai le Vietnam en partage pour des raisons familiales et puis parce que je suis très investie dans la coopération et la promotion de la langue et de la culture vietnamienne, en particulier à Bordeaux. Et c'est à ce moment-là que par hasard j'ai rencontré Camille Brisset, qui était à l'époque une doctorante en psychologie, et qui a fait une thèse en partie sur des étudiants vietnamiens. Et donc je lui ai proposé de travailler avec moi sur la communication sur les personnes âgées. Et puis une amitié est née, nous avons travaillé très régulièrement ensemble. Et puis nous avons confronté nos méthodes de travail qui étaient vraiment très différentes. Mais c'était très enrichissant puisque on avait une approche très différente du point de vue de la vieillesse. Mais en même temps, c'était très enrichissant, très riche, puisque on s'est rendu compte que cette notion traversait les époques, que la vieillesse est un débat vraiment lié à l'espèce humaine et qu'on pouvait en parler de diverses manières et que c'était tout à fait d'actualité de présenter ce sujet aujourd'hui. Voilà. Et par la suite, après ce colloque, et tout à fait par hasard, nous est venue l'idée de créer un comité de rédaction avec une autre personne qui s'appelle Isabelle Tournier, qui était aussi à l'époque doctorante en psychologie, et puis de publier un livre. Voilà. Et ça nous a permis de compléter à la fois notre formation pendant notre doctorat et en même temps d'utiliser d'autres facettes de nos capacités acquises au fur et à mesure de nos années d'études. Donc en cela, c'était vraiment une belle aventure, une belle première expérience, je dirais. Et puis d'aboutir à un livre, c'est quand même intéressant, surtout à nos âges. Voilà. En même temps, on a co-dirigé, grâce à M. Buisson, nous avons eu la chance d'avoir un rôle important dans la confection de cet ouvrage, et pour cela, au nom du comité, nous vous en remercions vivement. Et puis M. Guillaume aussi, qui est à l'initiative du projet, nous vous remercions voilà, au nom du comité. Voilà. Et donc, nous souhaitons vivement que cette action perdure pour les générations d'étudiants, de doctorants qui nous suivent. Voilà. Merci. À vous, Monsieur Buisson.
Bien, merci d'abord le professeur Guillaume et merci aussi à Coraline. J'ai envie de dire toute une série de merci parce que je n'aurais évidemment rien pu faire si d'abord Christophe Bounot ne nous avait pas ouvert la porte de la MSHA et si François Barre aussi nous avait pas invité à poursuivre l'expérience, puisque nous nous sommes retrouvés d'abord, je crois, tous les quatre, hein, avec Pierre Guillaume, François Barre et Christophe Bounot, en se demandant un petit peu au départ comment on allait procéder, mais rapidement aussi en trouvant des points de rencontre. Les doctorants ont suivi, ont cru assez vite en nous, et l'aventure a débuté de cette façon. Je pense que c'est une bonne surprise que d'avoir pu réaliser que c'est tout à fait important que, malgré des points de vue et des approches très différents, nous ayons pu nous rencontrer. Je pense que aussi il y a deux éléments. Ça a été important pour les étudiants qui ont effectivement découvert un certain plaisir dans cette journée à pouvoir partager entre eux et ensuite à suivre le livre. Et je crois que ça rentre tout à fait dans les projets actuels de formation des doctorants que de les associer à toute l'aventure et de les faire participer aussi, de leur apprendre finalement à communiquer leur savoir sous différentes formes, de différentes manières, et leur apprendre la discipline que représente un livre également, parce que c'est pas évident. Quand il y a beaucoup d'auteurs, il y a une trentaine dans le livre d'auteurs et co-auteurs. Quand il y a aussi beaucoup de références bibliographiques, il y en a plus de 400 dans cet ouvrage. Apprendre à gérer les auteurs, leur susceptibilité parfois, et puis également apprendre toute la discipline du livre, comme je le disais, c'est-à-dire les données bibliographiques, comment les répartir,
les
relectures, les multiples relectures, etc. Donc, Je dois remercier les étudiants qui m'ont vraiment beaucoup aidé et tous ceux qui m'ont encouragé dans cette histoire à poursuivre. J'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, je me présente d'abord un peu. C'est vrai, j'aurais peut-être même dû commencer par là. Je suis un professeur de psychogérontologie. En France, on n'est pas très nombreux à être professeur de psychogérontologie parce que c'est une discipline récente. Hein. En fait, si on compte bien, il y a à peine une dizaine de professeurs qui ont vraiment ce titre de professeur de psychogérontologie, c'est-à-dire dont la psychogérontologie est vraiment leur recherche, l'essentiel de leur recherche et de leur enseignement. Oh, c'est tout simplement dû au fait que les avancées en gérontologie sont aussi très récentes. Un collègue me rappelait récemment qu'en fait, la gérontologie a véritablement débuté en 1991. Pourquoi en 1991? Parce que la fille de Rita Hayworth, Rita Hayworth était elle-même décédée en 1985, apprend aux États-Unis, que, au monde américain, que sa mère est morte de la maladie d'Alzheimer. Et sa révélation a un impact considérable sur les médias et les associations scientifiques américaines. Et c'est à partir de là que vont s'engager les véritables recherches approfondies sur la maladie d'Alzheimer. Ça va tirer tout le reste des recherches sur le vieillissement ensuite. Donc, c'est en fait, paradoxalement, c'est la gérontologie, je ne parle pas ici que de la psychogérontologie, mais la gérontologie est une science qui est absolument récente. Quand on parle de vieillissement et de vieillesse aujourd'hui, je fais bien la différence entre les deux, et sur le livre, je suis ravi d'ailleurs qu'il y ait ces deux termes. Vous savez qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à ramener le vieillissement à la dernière étape de la vie, à confondre le vieillissement et la vieillesse. Or, que l'on soit clair, le vieillissement, c'est un processus qui dure toute la vie. Et la vieillesse, c'est un état. Et il peut y avoir d'ailleurs, il y a toujours du vieillissement dans la vieillesse. C'est pas parce qu'on arrive à la dernière étape de la vie qu'il n'y a plus de vieillissement. Il y a au contraire un vieillissement peut-être plus visible, parce que plus marqué, plus stigmatisé que dans le reste de la vie. Mais toute la vie est vieillissement, à une certaine étape de la vie, nous arrivons donc à la vieillesse. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à superposer le vieillissement à la vieillesse, la vieillesse au vieillissement, etc., ce qui est souvent tout à fait dramatique. Alors, dans l'idée que j'ai développée, qui a été à l'origine finalement de ces journées scientifiques d'abord, puis de ce livre, c'était de se dire, bon, c'est vrai, il y a un discours aujourd'hui sur la vieillesse qui est presque entièrement réduit à un discours biologique, médical. C'est-à-dire que quand on parle de la vieillesse, presque aussitôt, tout le monde a dans la tête l'idée qu'il y a des aspects extrêmement négatifs, comme par exemple la détérioration, la démence, la maladie d'Alzheimer, et que finalement, la vieillesse, alors j'exagère un petit peu, mais en fait, très résumé, ça revient à ça, c'est les rides d'un côté et c'est la maladie d'Alzheimer de l'autre. Je trouve très dommage, enfin, heureusement qu'il y a un discours médical, évidemment, et qu'il y a des recherches médicales approfondies. Elles nous permettent quand même de progresser au niveau de l'espérance de vie. Mais laisser le terrain occupé essentiellement par le discours médical me paraît extrêmement ennuyeux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin culturel énorme de parler du vieillissement, mais vraiment à quantité de niveaux, c'est-à-dire parler du vieillissement au niveau de l'art, au niveau de la littérature, au niveau de la philosophie, au niveau de la sociologie, mais au niveau des films, etc. Ça me paraît très important parce qu'il y a un manque affligeant de culture gérontologique qui pose des problèmes d'ailleurs considérables à différents niveaux, ne serait-ce que dans le fait que nous avons des représentations qui sont extrêmement négatives ou majoritairement extrêmement négatives de la vieillesse. Alors, pour aller très vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais vous donner un petit exemple de la difficulté et des problèmes que ça engendre. Vous avez affaire à un jeune enfant, vous lui dites, et on le lui dit sans cesse, qu'il est bien de grandir, qu'il faut qu'il soit comme papa, maman, ou comme ses grands frères, ses grandes sœurs, que bien, être grand, c'est bien. Donc on lui passe le message que vieillir, c'est bien. Et puis, arrivé à un certain âge, aux alentours de 20-30 ans, je ne sais pas trop quand, Eh bien, tout d'un coup, il y a un discours inverse que l'on dit aux gens. Non plus, c'est bien de grandir, mais il est interdit de vieillir. Il faut rester jeune à tout prix. Hein. Et ce discours, vous le trouvez partout. On ne peut pas ouvrir un livre, on ne peut pas ouvrir un magazine. Il faut rester jeune à tout prix. Et les gens reprennent ça en cœur en disant « Ah oui, mais moi, je ne suis peut-être pas jeune dans mon corps, mais en tout cas, dans ma tête, je suis jeune, je m'efforce de rester jeune. Hein. » Et oui, ben, on fait ce qu'on peut, on essaie de rester jeune. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi jusqu'à 20 ans, c'est bien de vieillir, et passer cet âge-là, c'est plus bien du tout de vieillir. Il faudrait rester jeune, et rester jeune à tout prix. Et on est prêt à consacrer des efforts considérables là-dessus. Bon, et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Il faudrait rappeler ici la fontaine de Jouvence. Mais les efforts, considérant la fontaine de Jouvence, on en est absolument tout près aujourd'hui. Le mythe de la fontaine de Jouvence, il n'est pas mort. Vous n'avez qu'à écouter ce que dit l'industrie des cosmétiques, ou ce qu'on vous rappelle sans arrêt à la télévision. Si vous faites bien votre petite gymnastique quotidienne, si vous prenez bien les gélules, qui sont les gélules qui évitent de vieillir, si vous prenez bien vos oméga 3, si vous prenez bien, si vous faites bien ce qui est culturellement accrédité dans un codex qu'on pourrait énumérer qui est très long, hein, si vous faites bien les gestes qu'il faut, ben vous ne devriez pas vieillir. Hein. Vous ne devriez pas vieillir, et même pire que ça, vous devriez vous sentir coupable de vous laisser aller à vieillir. Et je vous assure que le discours est parfois extrêmement pesant hein, sur les gens. Partout, on vous dit, on vous répète sans arrêt, ben, faites ce qu'il faut hein, et essayez en tout cas de nous présenter un visage ou un cœur ou un esprit ou quelque chose qui nous font voir qu'en tout cas, vous faites les efforts qu'il faut pour rester jeune. Et je crois que là, on oublie une chose quand même, c'est que quand est-ce qu'on parle de l'âge, quand est-ce qu'on aide les gens un peu à dire la vie, ça ne s'arrête pas à 20 ans, la vie, ça ne s'arrête pas à simplement rester jeune, mais qu'on peut aussi tirer du profit, tirer du plaisir à vieillir. Hein. Il y a quelques années, avec un collègue, on avait fait un colloque autour d'un thème qui était le désir de vieillir. On avait quand même mis un point d'interrogation. Hein. Et on s'est fait agonir pendant tout ce colloque par des gens qui sont venus nous dire « Mais c'est monstrueux, vous ne pouvez pas dire... Vous ne pouvez pas parler d'un désir de vieillir. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et il y avait même des psychanalystes dans la salle qui nous ont dit, mais ce désir-là, jamais personne, jamais aucun psychanalyste ne l'a entendu sur son divan. Hein, le désir de vieillir. Ben alors, quand même, hein, c'est quand même incroyable. Pourquoi alors on dit aux gens mais grandissez, grandissez, grandissez. Pourquoi on ne pourrait pas grandir toute la vie, quoi hein et surtout qu'aujourd'hui, pourquoi on n'aurait pas les moyens d'aider les gens à grandir toute la vie Bon, donc désir de vieillir, c'est absolument interdit. Mais alors, si on peut pas parler du désir de vieillir, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas aider les gens à travailler sur le vieillir hein, et à travailler dans leur tête. Hein, finalement, à vieillir. Je ne veux pas dire à mourir, mais de toute façon, les philosophes nous l'ont dit depuis longtemps, c'est que, quand même, l'ouverture à la vie, c'est la gage, je crois, disait ça, ben, c'est l'ouverture à la mort, et qu'il faut choisir dans la vie. Ou l'on choisit de mettre la mort au centre, ou l'on choisit une vie sans risque, hein, en disant, je vais éviter tous les risques, en particulier les risques les plus létaux qui soient. Mais comment vivre de cette manière-là sans prendre jamais les risques de vivre? On voit bien à quoi ça peut nous mener directement. Donc, où l'on choisit de vivre, et à ce moment-là, la mort est en perspective, où l'on choisit de ne pas changer, Mais alors à ce moment-là, c'est une autre mort qui est en perspective. C'est celle de la chronicité, celle de la routine, celle de la sclérose et de la paralysie générale. Bon, mais si on dit aux gens, il faudrait quand même que vous appreniez à vivre toute la vie, à quoi peuvent-ils aujourd'hui se raccrocher par rapport à ça ? Quand on voit le jeu de massacre qu'il y a de tous les supports identificatoires possibles, aujourd'hui, c'est pas terrible, effectivement, ce qu'on offre aux gens comme perspective pour vieillir, comme support identificatoire. Ils sont systématiquement dévalorisés. C'est François Dubé qui disait, le sociologue quand même bordelais qui est particulièrement connu, c'est que avec le chômage, désormais, les jeunes ont appris que leurs parents étaient chômeurs. Ils ont découvert aussi que leurs parents étaient chômeurs et vieux. Et puis ils ont découvert après que leurs parents étaient chômeurs, vieux et déments. Ou en tout cas, proches de l'être. Donc évidemment, c'est pas très facile de s'accrocher, de s'identifier à des supports identificatoires aussi dévalorisés. Et je crois que notre culture, ce dont elle manque le plus, c'est justement une mise en valeur de supports identificatoires. Mais quel qu'il soit, il ne s'agit pas de dire il y a une bonne façon de faire ou pas une bonne façon. Il s'agit tout simplement de laisser s'exprimer, je dirais, les arts, la créativité, l'inventivité de chacun, en lui disant écoute, voilà, crée ta vie et puis regarde ce qui s'est passé avant, regarde le maréchal de Richelieu. Regarde, pourquoi pas aussi ce qu'ont écrit, et y a des choses remarquables. Cicéron, Sénèque, les auteurs d'il y a 2000 ans qui ont écrit des choses tout à fait remarquables sur la vieillesse et le vieillissement. Il y a des supports, il s'agit de les mettre en valeur, il s'agit d'aller les trouver, il s'agit de les créer, et il s'agit de dire à chacun, mais on peut trouver du sens à la vie si, évidemment, on laisse s'exprimer autour de la vie, de la créativité et de l'imagination. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est que dans les échanges qu'on a eus, de disciplines diverses, on a pu noter tout de suite qu'il n'y avait pas que les psychologues, il n'y avait pas que les médecins qui avaient des choses à dire sur la vieillesse. Mais les historiens avaient des choses à dire sur la vieillesse, les géographes, les philosophes. Dans l'ouvrage, je vais parler un petit peu de l'ouvrage là quand même, dans l'ouvrage, il y a des chapitres qui sont très scientifiques et d'autres, et j'ai relu le livre là encore il y a peu de temps, qui sont accessibles vraiment à tout public. Et parce qu'ils posent aussi des questions qui sont tout à fait de fond. Il y a un passage qui est un chapitre qui est fait par une philosophe qui est, alors je ne sais plus son prénom, c'est Brigitte Estève Belbeau, hein, qui pose la question du passage en quelque sorte, c'est des stratégies de vieillir aux stratégies du vieillir. Et c'est tout à fait remarquable la manière dont elle aborde cette chose, ces perspectives, qui touche au problème de l'éthique. Il y a les historiens, on l'a dit tout à l'heure. Il y a dans les historiens deux passages que je trouve remarquables. L'un qui nous parle du maréchal de Richelieu. Le maréchal de Richelieu, à 92 ans, il a un côté tout à fait moderne et actuel dans sa façon dans sa façon d'être. Et on comprend que là, par exemple, autour de lui, ce qu'il a maintenu en vie, ce qu'il a maintenu vivant, c'est d'abord son réseau social, extrêmement dense, hein, et le fait qu'il ne s'est pas embarrassé du fait d'être vieux, ça ne l'a pas du tout piégé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les plaisirs de la vie, hein, Et qu'il soit vieux, d'accord, mais puisqu'il pouvait en profiter des plaisirs de la vie, eh bien, il en a profité des plaisirs de la vie. Et après tout, ça lui a bien, ça lui a parfaitement réussi. Il n'a pas été piégé par les représentations de la vieillesse. J'ai bien aimé l'article qui est fait aussi sur le directeur du journal Le Matin. Hein, parce que le Bruno Varia, enfin je ne sais plus son nom, qui était lui absolument obsédé par l'idée de vieillir et qui voulait, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, hein, trouver une solution pour lutter contre la vieillesse, une sorte donc, je reviens tout à l'heure à ce que je disais, c'est-à-dire le mythe de la jouvence. Et pour lui, la jouvence, eh ben, c'était le Saint-Ol. Hein. Et vous connaissez tous le Saint-Ol. Pour lui, le Saint-Ol répondait à tout et devait répondre aux problèmes liés au déficit de la vieillesse. C'est remarquable ce qui est dit là. Et on voit bien combien c'est actuel aussi, parce qu'on pourrait remplacer Saint-Ol par Oméga 3 ou DHEA ou je ne sais quoi. Encore, on voit bien comment cette idée de la jouvence, du mythe de la jouvence perdure. Mais il y a aussi d'autres articles qui sont tout à fait passionnants, comme l'article du sociologue Vincent Caratac, qui en des mots très simples, c'est un sociologue, mais je vous assure qu'il parle avec les mots du quotidien, et il nous parle de la déprise, hein, c'est-à-dire de ce passage qu'il y a quand on vieillit à, au fond, comme je suis fatigué, peut-être limité un peu au niveau fonctionnel, il y a un certain nombre de choses que je dois lâcher, que je ne peux plus faire, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres que je ne peux pas faire. Ou en tout cas, peut-être que je peux essayer de limiter ce que je fais, mais pour me ramasser sur les choses qui me font plaisir et pour lesquelles je suis encore efficace. En psychologie, on appelle ça un peu le système SOC, hein, sélection, optimisation, compensation, de Baltès. Ici, il y a des collègues qui pourraient très bien en parler de meilleure façon encore que moi, mais cet article sur la déprise est tout à fait remarquable, hein. Ah, et puis, dit avec les mots tous les jours. Et puis, il y a aussi l'article fait par Pierre Guillaume. Peut-être en parlera-t-il lui-même tout à l'heure ou aura-t-il des questions qui viendront dessus. Hein. Et bref, quand je le relis, cet ouvrage, je me dis que finalement, oui, c'est vrai, il y a des doctorants plus ou moins jeunes qui ont participé. Il y a des aspects qui sont très scientifiques, mais il y en a aussi qui sont dans un langage très simple et très, très accessible. Et je suis ravi qu'on ait pu croiser tous ces discours, hein, et présenter une figure, une image du vieillissement qui ne soit pas qu'une image fataliste, négative et centrée essentiellement autour du déficit et de la détérioration. Ce que dit Vincent Caradec d'ailleurs, c'est que alors là c'est le sociologue qui s'exprime, tout le monde parle de vieillesse, dit-il, en termes de déclin, mais quand on interroge les gens, le vrai problème de la vieillesse, ce n'est pas le déclin, c'est l'épreuve. Merci.
Je vous repasse la parole, professeur Guillaume.
Bon, ben, je ne vais pas ajouter grand-chose. Une simple remarque sur ce que vient de vous dire M. Bouisson. Je crois que les années de la vieillesse, disons les années de la retraite, pour être plus clair, peuvent être extraordinairement agréables. Seulement, il y a un problème. C'est que plus elles sont agréables, plus elles passent vite. Et ça, c'est pénible à vivre.